Bienvenue sur Une semaine, un livre. Je suis Elodie, amoureuse des livres depuis ma jeunesse, je les aime en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Sur ce podcast, je vous propose de me retrouver chaque semaine pour un moment de partage littéraire. Vous allez y retrouver mes recommandations, celles de mes invités, des retours de lecture communes ou encore un format journal de lecture. Et si ces recommandations font écho en vous, vous les ajouterez peut-être à votre propre bibliothèque.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et avant de commencer quoi que ce soit, bonne année les filles !
Bonne année !
Bonne année !
Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous en avez bien profité. C'est un nouvel épisode donc consacré au club de lecture Pharmakeia. Donc avec moi aujourd'hui, il y a Élise et Pauline. Pour le mois de décembre, contexte oblige, notre objectif, c'était de lire une romance de Noël. Est-ce que nous l'avons toutes respectée ou pas ? On s'est permis des libertés et c'est très très bien parce que la période de Noël est faite pour ça. C'est pas la première fois qu'on décidait de choisir chacune un livre différent qui entrait dans le même thème. On l'avait fait aussi en novembre. Et du coup, dans l'épisode, là, on va vous présenter tour à tour ce qu'on a lu et si on a aimé ou pas. Le thème initial, c'était romance de Noël. Avant de passer au livre et parler de ce thème, je voulais savoir, est-ce que vous êtes des habitués des romances de Noël ?
Alors moi, je n'avais pas lu de romance avant 2022. Donc du coup, non, c'était mon premier Noël où je lisais des romances. Mais j'ai tout de suite accroché, j'aime bien.
D'accord. Et toi, Pauline ?
Pas du tout. Des romances, oui, j'ai dû en lire quelques-unes. Romances de Noël, jamais.
Et toujours pas. Tu peux le dévoiler maintenant.
Et toujours pas, parce que j'ai fait ma mauvaise élève. J'ai lu quelque chose qui n'était ni une romance, ni de Noël, mais qui parlait d'amour, et c'était quand même très très beau.
Voilà, donc on s'est permis des libertés. Ben moi non plus, j'avais jamais lu de romance de Noël. Comme toi, Élise, et comme toi, Pauline, les romances, en fait, pas beaucoup non plus. Genre, je crois, en romance, le dernier que j'ai lu, ça devait être en 2016. C'était un Colin Hoover, Maybe Someday.
Ok, je ne connais pas.
Donc voilà, je suis pas une grande habituée des romances. Enfin, là, je parle en littérature. Par contre, les romances de Noël en film, à Noël, moi, c'est... En film, ouais.
Ah, mais c'est le truc obligé, hein.
C'est sacré.
Ben oui, c'est déjà j'ai un film à peu près tous les week-ends au minimum. Et puis dès que j'ai un moment, même en semaine, hein, je m'organise avec le travail s'il faut pour prendre mon petit plaid et regarder mon film de Noël.
Avec ton petit thé.
Oui.
Ton petit chocolat chaud.
Exactement. En fait, je m'étais dit, mais c'est bête que j'ai pas lu de romance de Noël avant 2022, effectivement. C'était ma première et je suis contente. Alors du coup, c'est parti. Il faut qu'on parle des livres qu'on a lus. Comme Pauline, tu as choisi d'être la mauvaise élève, et ben, tu vas passer en première.
Ça marche, pas de souci. Pour cette fin d'année, j'ai choisi de présenter mon coup de cœur, mon dernier coup de cœur, et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, qui attendait depuis quelques mois déjà sur mon étagère dans ma bibliothèque, qui a été un immense coup de cœur, comme je l'ai dit.
Alors, de quoi ça parle ?
C'est deux histoires, l'histoire de deux femmes, plutôt l'histoire de deux mamans, je dirais. Une jeune maman, Lily, qui est enceinte de son premier enfant. Donc voilà, vous imaginez bien la sphère de bonheur, la sphère familiale qui se crée autour de cette grossesse. Et petit problème, le bébé arrive quelques mois trop tôt. On se plonge aussi dans tout ce qui est angoisse de la prématurité, les décisions qu'il faut prendre et tout ce qui gravite autour de ça. Et en parallèle, on suit Élise, qui, elle, est une maman à la retraite, puisqu'elle vient de voir ses deux enfants quitter le nid familial. Et comme c'est une maman qui est divorcée, elle se retrouve un peu toute seule et elle doit réapprendre à vivre pour elle-même.
Ah, sympa. Et donc, c'est un coup de cœur.
Ah ouais, complètement. Il m'a fallu quelques jours pour m'en remettre, pour me remettre de ma lecture. Ouais, franchement, je l'ai lu en quelques heures. Je crois que j'ai dû le commencer un samedi soir et je l'ai fini le dimanche midi, tu vois. Bon, après, ce sont des livres qui se lisent assez rapidement quand même. Je pense que je n'avais pas retrouvé ça avec Virginie Grimaldi depuis ma toute première lecture d'elle. J'avais beaucoup aimé. Puis après, je crois que je les ai tous un peu lus, les Virginie Grimaldi. Et finalement, bah, c'était un peu... pas redondant, mais voilà, j'avais pas retrouvé cette émotion-là depuis ce premier livre. Et là, j'avoue que j'ai alterné vraiment les pages brouillées parce que j'avais les larmes aux yeux. Oh. Et puis des fois, genre le grand sourire, le grand smile quand j'étais en train de lire. C'était vraiment, vraiment très fort parce que j'ai trouvé qu'elle avait les mots justes pour décrire la maternité. Ça a aussi sûrement résonné en moi parce que jeune maman et que ça fait écho forcément. Et puis non, c'était vraiment... vraiment très 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 fort parce que même si ma fille n'est pas née préma, j'imagine que déjà quand tu deviens maman, tu as toutes ces angoisses-là qui sont présentes. Est-ce que je vais bien faire
T'es pleine de doutes quand même.
Et quand ton bébé, tu sais pas trop comment il va, tu sais pas comment ça va se passer, ça doit être encore infiniment pire.
Est-ce que c'est le genre de lecture que tu pourrais recommander, genre à quelqu'un qui fait face à des doutes par rapport à la grossesse, à la maternité, qui n'est pas encore maman et qui a peur?
Oh oui, tout à fait.
Ça fait pas trop peur, cette partie vraiment inquiétude autour de l'accouchement, la prématurité, le bien-être du bébé, tout ça, sa vie?
Non, pas du tout, parce qu'on voit ça à travers les yeux justement d'une maman. Et puis Virginie Grimaldi, même si c'est pas un roman autobiographique, elle a vécu 3 fois la maternité et il me semble qu'avec son 3e bébé, il était un peu prématuré aussi. Donc je pense que ça peut s'adresser à toutes les personnes qui ne veulent pas d'enfants, comme les personnes qui en veulent, comme les personnes qui en ont. Parce que c'est deux histoires humaines très très fortes et que la maternité fait partie de la vie, pas de la vie de tout le monde certes, mais que c'est toujours bien d'avoir le point de vue.
Il y a toujours des gens qui sont mamans autour de nous, des gens qui choisissent de devenir maman et puis on a nos propres mamans.
Bah oui.
Quand on a la chance d'avoir notre maman encore en vie, etc., forcément, c'est des choses qu'on vit, la maternité, voulue ou pas.
Ça permet aussi de replacer la maman, enfin la mère, dans le contexte de une mère, c'est pas seulement une mère, c'est aussi une femme. Et souvent, quand la maternité arrive, la femme, elle s'oublie. Et donc, le livre permet de remettre ça en lumière et que c'est pas toujours facile de retrouver sa place de femme quand on est maman. Mais toujours avec cette note, cette petite note d'humour, cette petite note juste, les mots justes. Je trouve que c'est une autrice qui trouve souvent le mot juste. La preuve en est avec toutes les larmes que j'ai versées pendant ma lecture.
Et tu vois, j'ai quelques-unes de mes amies qui sont jeunes mamans ou en cours de grossesse. C'est un sujet hyper présent. Moi, je suis dans la partie doute, tu vois, en mode, je sais pas. J'aime mon sommeil. L'accouchement, c'est pas le rêve.
Et donc, à toi, avec ton point de vue là, tu voudrais le lire ou pas?
Je sais pas. Je suis pas sûre, justement. Je crois qu'il aurait tendance à me faire encore plus peur.
D'accord.
Voilà. C'est pour ça que je t'ai posé la question un peu orientée comme ça, parce que je sais que je suis dans une tranche d'âge où la partie grossesse-maternité devient un sujet tellement récurrent. Même si on ne le vit pas soi-même, on est à tellement de monde autour de nous qui le vit qu'on est obligé d'en parler, et c'est très bien. C'est pas non plus un supplice de parler de ça. Mais ouais, c'est un sujet pas mal d'actualité.
Oui, c'est clair que quand tu arrives dans la trentaine, c'est un sujet qui est particulièrement présent entre les personnes qui en veulent, les personnes qui galèrent à en avoir, les personnes qui n'en veulent pas, la pression familiale aussi qu'on peut te mettre. C'est vrai que c'est un sujet qui gravite très très fort. Même étant en plein doute, je ne pense pas que c'est une lecture qui mette la pression. En tout cas, c'est une lecture qui permet de mettre en lumière aussi la prématurité, les services de néonates qui font des choses extraordinaires pour tous ces petits bébés, pour les parents qui ne peuvent pas forcément être là, pour les parents qui ont des doutes, pour les parents qui tombent en dépression. Voilà. C'est vraiment un livre très fort que je recommande pour tout le monde.
D'accord. Est-ce que toi, Élise, ça t'a donné envie de le lire ?
Alors, je dois avouer que non, pas particulièrement. Je suis désolée. Non, alors, moi, je suis dans la catégorie des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Je ne sais pas parce que je ne veux pas avoir d'enfants que le livre ne me dit rien. Mais en fait, c'est le genre de livre qui, je pense, pour moi, serait trop... Je n'irais pas jusqu'à dire anxiogène, mais peut-être un peu trop stressant quand même. C'est un sujet qui serait peut-être trop réel pour moi. Je ne sais pas.
Ok.
Je pense la façon dont tu le racontes, avec les larmes et tout ça, je me dis, ça a l'air d'être une pépite, mais c'est vrai que le sujet, je pense qu'en fonction de comment on se sent avec ce sujet de grossesse et parentalité, et c'est bien de se poser la question, vraiment, est-ce que je vais le lire ou pas?
C'est ça. J'ai eu des retours de femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui voulaient des enfants, mais qui n'arrivaient pas à en avoir, qui l'ont lu. Elles ne se sont pas senties angoissées à cette lecture, justement. Elles ont aimé leur lecture, ça leur a ouvert les yeux sur certains sujets, ça les a confortées dans leur choix ou non. Voilà, après, c'est chacun, comme tu le dis, avec sa vision de la maternité, son envie ou pas. Et je tiens à dire que je pense que le fait que j'ai eu les larmes aux yeux pendant ma lecture, tout ça, c'est parce que on a beau dire les hormones que t'as quand t'es enceinte ou quand t'es maman, elles mettent très 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 longtemps à partir. Un peu trop à mon goût, parce que clairement j'ai l'impression que mon cerveau et mes émotions sont directement reliés à mes canaux lacrymaux, tu vois. Mais
Ah, mais dans ce cas-là, moi je suis enceinte depuis longtemps.
Voilà, c'est dis-toi que c'est encore pire après. Mais bon, après, voilà, c'était mon coup de cœur de la fin de l'année. Je l'ai trouvée très fraîche comme histoire, très sympa. Et en plus, j'ai trouvé qu'elle mettait bien en lumière quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément quand on devient parent, parce qu'on est dans notre sphère, dans notre bulle, tout ça. C'est l'entourage, l'impact que peut avoir l'entourage sur la maman, sur l'enfant, sur le papa aussi. Parce qu'on ne parle pas beaucoup du papa, mais le papa, c'est quand même un des trois piliers principaux du trio maman, bébé et papa. Et l'impact de l'entourage qui peut être tantôt ultra bienveillant, voilà, et tantôt horrible, jugeant et moralisateur. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut, si on souhaite avoir des enfants, ou non d'ailleurs, mais qu'on se rende compte que, quand t'es de maman, t'as besoin de soutien, t'as besoin de bienveillance, t'as pas besoin qu'on te dise « Ah, mais tu devrais faire ça, oh, mais moi j'ai fait ça, il est pas mort », ce genre de choses-là. C'est chacun à sa maternité, laisser vivre les gens leur maternité comme ils le souhaitent, quoi. Leur parentalité comme ils le souhaitent. Voilà, c'était le dernier sujet important, je trouvais, à propos de ce bouquin.
Bon, on lui a fait un accueil plutôt mitigé, mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas de bon public là-dessus.
Mais c'est pas grave, peut-être que ça fera écho auprès d'autres auditeurs.
Ouais, voilà, qui eux sont plus à l'aise avec ce sujet.
Après, faut se dire aussi que ça reste un livre... Ça reste une fiction. Chaque maternité est unique et différente. Et de toute façon, ta vision des choses impactera ta grossesse, impactera ta maternité ou ta non-grossesse et ta non-maternité si tu le décides. Mais tant que tu es en accord avec ce que toi, tu penses et tes valeurs, ce n'est pas une lecture qui va te faire changer d'avis.
Eh bien, merci Pauline pour cette présentation. On lui a fait un accueil mitigé, mais ça n'enlève rien à ton coup de cœur, j'espère. J'espère que les auditeurs seront plus sensibles que nous. Maintenant, ça va être à ton tour, Élise. Dis-nous, qu'est-ce que tu as lu pour ce thème autour de Noël ?
Alors, en fait, moi, j'ai même lu 3 romances de Noël.
Bravo !
Donc, j'en ai choisi une à vous présenter.
Pour quelqu'un qui lisait pas de romance.
Ben ouais. J'ai lu ma première romance au mois de septembre de la dernière, et depuis, j'en ai lu quelques-unes, on va dire.
Ah ouais !
J'ai découvert, et puis voilà, j'ai plongé dedans.
D'accord. Donc là, tu en as lu 3 des romances de Noël, et tu en as choisi une pour nous présenter.
Ouais, j'ai choisi ma préférée.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, j'ai lu La lettre de Noël d'Emily Stone, qui en fait est une romance de Noël sans vraiment être une romance de Noël. C'est présenté comme une romance de Noël, et en réalité, ça commence à Noël, ça finit à Noël, mais ça se passe en 2 ans entre deux. Donc, ça, c'est pas vraiment une vraie romance de Noël.
Ah ouais.
Et c'est une romance, mais c'est une romance super triste. Donc, c'est une romance sans être vraiment une romance non plus. Donc, c'est un petit peu... j'ai pas vraiment triché, mais voilà, c'est un petit peu à côté aussi.
On aurait pas plus triché que moi.
Alors du coup, qu'est-ce qui se passe à ces Noël et pendant ces 2 ans, de quoi ça parle ?
Alors c'est l'histoire de Josie, qui est une jeune Anglaise et qui, chaque décembre, envoie une lettre à ses parents. Ses parents qui sont décédés à Noël quand elle était toute petite. Et donc elle leur envoie tous les ans une lettre pour leur dire qu'il lui manque. Une année, en allant poster sa lettre à vélo dans Londres, elle renverse un jeune homme sur la route, un jeune Américain qui s'appelle Max. Lui, il se retrouve coincé à Londres, loin de sa famille, pour les fêtes. Et ils vont se retrouver à passer Noël tous les deux ensemble, parce qu'ils se retrouvent tous les deux perdus. Elle n'aime pas les fêtes. Lui, il n'a pas particulièrement envie de les fêter non plus cette année-là. Et ils se retrouvent tous les deux à Londres pour Noël. Et ils vont passer Noël ensemble, ils vont passer quelques jours ensemble. Pour la première fois depuis presque 15 ans, Josie va passer un Noël qu'elle va apprécier, elle va passer un Noël qu'elle va trouver heureux. Malheureusement, 2 jours après, Max s'en va et il ne la recontacte plus. Donc ça commence mal déjà. Et donc ensuite, on va les suivre pendant 2 ans, dont Noël, mais aussi en restant de l'année. Et en fait, ça va être un livre qui va permettre de voir les rencontres qui vont se passer entre Josie et Max sur 2 ans, des rencontres un petit peu de coïncidence. Ils vont se retrouver ensemble en Écosse, ils vont se retrouver ensemble à New York, ils vont se retrouver ensemble dans un mariage dans la campagne anglaise. Ça va être l'histoire de ces rencontres un petit peu impromptues entre deux, en alternant entre le point de vue de Josie et le point de vue de Max. Et on va se rendre compte au fur et à mesure que Max, il a un secret. Donc même de son point de vue à lui, on ne sait pas quel est son secret. Et Josie, elle n'a pas vraiment de secret, elle a juste une vie qui est toute pourrie, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, en fait, le livre va les suivre tous les deux. Et en fait, on va finir par se demander si la solution à leurs problèmes, à leurs secrets, à tout ce qui ne va pas dans leur vie, bah, ce n'est pas eux deux, tout simplement. Le fait d'être ensemble, c'est un résumé à peu près, à peu près pas trop dévoilant. Voilà. Donc, à l'origine, donc, je voulais dire donc, une vraie romance de Noël. Donc, résultat, ça ne se passe pas vraiment à Noël. C'est une romance qui finit par être extrêmement, pas vraiment lourde, mais très, très intense. Parce qu'en fait, c'est un livre qui va parler plus du deuil, de la difficulté d'arriver à vivre quand tout va mal. Mais c'est aussi un livre qui va nous permettre de se dire que si on rencontre la bonne personne, peut-être que ça peut tout changer, que ça peut aider.
Oui, bah ça, c'est très romance de Noël, ça.
Ouais, c'est très romance de Noël. Ouais, c'est très romance tout court, d'ailleurs, pas forcément de Noël, mais...
Oui.
Mais oui. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à lire les 400 pages en une journée. Je l'ai commencé, je n'ai pas pu le poser.
Ouais.
Ouais. Alors, heureusement, c'était un week-end, mais quand même. Alors, oui, ça fait très, très romance de Noël. C'est montrer que l'amour peut être la solution à plein de choses, sauf que c'est un livre qui finit extrêmement mal. Alors, je ne vous dirai pas comment, parce que si vous voulez le lire, il ne faut pas le savoir. Mais... Donc, c'est un livre qui finit très mal. Donc, moi aussi, j'ai fini en pleurs avec ce livre. Comme Pauline, mais vraiment, mais en pleurs d'ampleur, quoi. J'étais vraiment, mais en sanglots au-dessus de moi. Ça m'est rarement arrivé dans ma vie.
Ah ouais. Oh là là.
Voilà. Et on ferme ce livre. On a pleuré sur les 10 dernières minutes, quoi. Et en même temps, on a quand même une fin qui est optimiste. C'est triste en étant optimiste. C'est-à-dire que ça finit mal, mais en même temps, ça nous montre que c'est ce que peut être la vie. La vie, c'est pas toujours rose. C'est même dans une romance, tout finit pas toujours bien. C'est une espèce de retour à la réalité après les lunettes roses de « Oh, c'est beau l'amour !» Voilà. Donc, j'ai bien aimé ce côté-là. Et puis, c'est surtout un livre qui va montrer que même quand ça va mal, on peut toujours trouver quelque chose qui va bien. Qu'il faut toujours voir le côté optimiste.
Ouais, ça, c'est beau.
Et ça, j'ai bien aimé.
Eh ben, ça a l'air intense. Et vous avez des lectures intenses, les filles.
Très intenses.
D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu ne recommanderais pas ce livre? Tu sais, en mode trigger warning, quoi.
Il ne faut pas être dépressif, je pense.
D'accord. Oui, c'est pas mal.
La fin, en plus, prend vraiment par surprise. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça m'arrive souvent d'arriver à deviner comment on va finir les livres, surtout sur des romances. Là, je ne l'avais pas du tout vu arriver, ça. C'était, mais alors, pas du tout.
Fulgurant.
C'est ça, voilà. C'est exactement le mot qu'il faudrait, exactement, fulgurant. Sinon, non, je pense que ça peut correspondre à tout le monde, même à des gens qui n'aiment pas forcément les romans, parce que du coup, on n'a pas vraiment le côté romance que je dirais gnangnan qu'on a dans certaines romances de Noël. Donc ça, j'ai bien aimé aussi. On disait les films de Noël, oui, les films de Noël, c'est très sympa, mais au bout d'un moment, il y en a qui sont vraiment très cuculapraline, on va dire.
Très gnangnan, ouais.
Ah ouais, cuculapraline, c'est très bien dit.
Là, il n'y avait pas ce côté-là, donc ça, j'ai bien aimé. Et du coup, oui, je pense qu'il peut correspondre à tout le monde, même à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire des romances ou des romances de Noël.
D'accord. Eh bien, merci pour cette présentation. De mon côté, j'avais choisi de lire Un Noël sans fin de Christina et Lorraine. Alors, depuis que j'ai découvert que c'était un duo d'autrices, en fait, que c'était deux nanas qui écrivaient ensemble, je ne vois pas pourquoi c'est pas juste écrit Christina et Lorraine et pourquoi c'est écrit Christina Lorraine comme si c'était une seule personne. Mais c'est pas grave, je fais avec. Alors, Un Noël sans fin, pour moi, c'est l'histoire d'un chalet qui accueille tous les ans les mêmes individus pour fêter le réveillon de Noël. Et ce sont des personnes qui se sont rencontrées pendant leurs études. Il y a un des couples qui a acheté le chalet et depuis, tous ensemble, ils passent les fêtes ensemble avec leurs traditions. Ils ont eu des enfants, donc les enfants aussi ont grandi avec cette tradition du réveillon de Noël dans le chalet. Chaque enfant a plus ou moins d'investissement face aux traditions. Et dans ces enfants, dans ces jeunes, il y a notre héroïne, c'est Maylene Joan. Elle est secrètement amoureuse d'un garçon qui s'appelle Andrew et qui fait partie des enfants de cette bande d'amis. Nous, quand on la rencontre, Maylene Jones, elle est sur un réveillon où, à cause de l'effet d'un lait de poule, elle va embrasser le petit frère de son crush qui s'appelle Théo. Mais c'est pas du tout ce qu'elle voulait, elle n'est pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé. Elle regrette son geste et au réveil le lendemain, c'est pas la seule chose qu'elle va avoir à digérer puisque c'est le jour du départ, c'est le jour de dire au revoir et c'est le jour où elle apprend que le chalet va être vendu puisque les propriétaires, donc les parents de Théo et Andrew, ne s'en sortent plus avec le chalet. Il y a trop de réparations à faire, trop d'entretien à faire. Ils n'ont pas les moyens de les faire ni le temps non plus. Donc cette annonce, c'est un effet choc pour tout le monde puisqu'en fait, c'était leur dernier réveillon dans le chalet et ils ne le savaient pas. Sur le trajet du retour, avec ses parents et son petit frère, Méline va être victime d'un accident de voiture et elle entre dans une boucle temporelle qui l'oblige à revivre ce réveillon, d'où le titre « Un Noël sans fin ». Ça arrive assez tôt dans le récit, donc je dévoile pas grand-chose. Et puis avec ce titre-là, on se doute un petit peu. Et là, pour le coup, moi, c'est bien dans le thème quand même. Hein. C'est de la romance, c'est à Noël et c'est un Noël sans fin. Donc on va en vivre un ou deux. En fait, je saurais même pas dire si j'ai aimé ou pas. J'ai été rapidement prise dans l'ambiance. Je suis fan des films de Noël, du coup, j'étais ravie de découvrir en mode lecture. C'était rapide à lire. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées au début, donc ça m'a très très vite beaucoup emballée. Et genre, je m'étais dit « Ah, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien » pendant, 50% du livre. Et ensuite, je trouve qu'il y a un point de rupture dans l'histoire que j'ai pas compris. Ou en tout cas, l'explication qui est donnée, moi, ça me suffit pas, je trouve pas ça logique. Et ça fait que, sur la fin du roman, je suis déçue, quoi. Élise, j'ai hâte d'entendre ton avis, s'il te plaît.
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, moi aussi, je m'attendais à autre chose à la fin. J'étais sûre qu'il y allait avoir un renversement de situation, qu'il y allait avoir quelque chose qui allait changer, que ça allait pas finir comme ça. Je sais pas, je m'attendais à autre chose. Ou à enfin, je peux pas spoiler, quoi. Mais oui, je m'attendais pas à ça non plus.
C'est dur d'en parler sans spoiler. Je pense que c'est pour ça que je peux pas aller plus loin que de dire à un moment, il y a un point de rupture. L'explication qui est donnée, soit je l'ai pas comprise, soit elle me convient vraiment pas, et ça fait que je suis pas d'accord avec la fin.
Moi, c'est pas une question d'explication, parce que c'est une explication basique de romance. Je m'attendais pas forcément à plus d'explications. Enfin, au début, il y a tellement de rebondissements que à la fin, ça devient trop plat.
Oui.
C'est ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait un dernier rebondissement avant la fin. En fait, c'est ça.
C'est ça. Moi aussi. Moi aussi. Quitte à attendre la dernière page. Mais non, rien. Je suis pas d'accord. Toutefois, franchement, j'ai passé un super agréable moment de lecture parce que ça se lisait vite, c'était agréable, il y avait plein de choses qui me plaisaient. J'avais envie d'être à sa place, hein. M'en foutais, moi, d'être prise dans une boucle de Noël, ça me va. Mais voilà, c'est le point noir du récit, je trouve, de point de rupture, explication qui va pas. Il est maintenant temps de conclure cet épisode et comme dernière question, je voulais savoir, comme c'est le début d'année, est-ce que vous vous êtes lancé dans un défi de lecture pour l'année 2023 ?
Alors, moi, non. L'idée de défi me dérange sans vraiment me déranger, mais je préfère apprécier ce que je lis, lire ce que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de le lire et puis voilà, c'est tout.
C'est pas mal, c'est un bon défi, hein, parce qu'on est vite tenté...
Ouais, je me dis que... À part participer à quelques lectures communes sur l'AD, sinon, non, je n'ai pas vraiment de défi.
Ouais, d'accord. Et toi, Pauline ?
Moi, je me fixe une barre. Enfin, ce n'est pas vraiment se fixer une barre, parce que si je ne les atteins pas, ce n'est pas bien grave, ça ne va pas changer ma vie. Mais j'aime bien me fixer un objectif, entre guillemets, de lire une cinquantaine de livres par an, que ce soit roman, que ce soit bande dessinée, manga, tout ça. Bon, je ne suis pas très manga, mais en ce moment, j'avoue que j'ai un peu plus de bande dessinée dans mes lectures. Donc voilà, si j'arrive à atteindre cette cinquantaine de livres, je serai contente. Pas de challenge particulier, à part quelques lectures communes avec le club Pharmakeia ou avec toi en tant que lecture commune classique, comme on fait depuis 2 ans maintenant. Je ferai sûrement le Pumpkin Autumn Challenge comme tous les ans, parce que j'aime bien. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je me suis noté une petite dizaine de titres, un peu moins de 10 titres, que notamment me refaire les 3 Seigneurs des Anneaux, enfin ce genre de choses.
Ah ouais.
Mais sinon, pas plus. Je me mets pas la pression non plus, quoi.
C'est bien, c'est bien.
Et toi ?
Je me suis lancé des défis. Vous le savez, les auditeurs ne savent peut-être pas, mais j'aime bien moi aussi participer aux challenges, je trouve ça cool, les défis et tout, je trouve ça cool, hein. Mais j'en ai jamais réussi un seul, pas un seul. De toute ma vie de lectrice. À chaque fois que j'essaie, c'est un flop. Mais c'est pas grave, j'ai décidé de quand même me lancer des défis pour cette année. J'ai un défi, donc sur mon nombre de lectures, j'aimerais lire 25 livres. Je pense que c'est faisable parce que ça me ferait 2 livres par mois à peu près, plus un bonus quoi. Et c'est à peu près mon rythme si j'arrive vraiment à lire tous les mois. Jusqu'à maintenant, chaque année, il y a un ou deux mois où je lis pas du tout. Et l'année dernière, ça a été pire que tout. Mais j'ai quand même lu 19 livres alors que pendant 2-3 mois, j'ai terminé 0 livre. Voilà, je me dis que 25, c'est faisable. Il va falloir que j'y arrive un jour. Et le second défi, c'est d'avancer dans mes séries, parce que j'ai plusieurs séries commencées et pas terminées, et j'aimerais bien en finir quelques-unes. Donc dans le lot, il y a La Passe Miroir, il y a Harry Potter, dont on a déjà parlé les deux dans le podcast, il y a aussi Blackwater, dont on a déjà parlé dans le podcast. Donc voilà, ça en fait quelques-unes quand même des séries que j'ai commencées et que, ouais, faut que j'avance dedans. Je suis pas sûre de tout finir parce que ça m'empêcherait de lire d'autres livres que j'ai aussi envie de lire, de rester trop longtemps peut-être dans le même thème, mais il faut que je lise au moins un tome de toutes ces sagas sur l'année, quoi. Voilà le plus gros défi. Ça, c'est un vrai défi.
C'est des beaux défis.
Ouais.
Mais profite aussi de tes sagas parce que tu pourras les lire pour la première fois qu'une seule fois et c'est vraiment unique.
C'est vrai, mais j'ai tendance à mettre trop de temps entre mes lectures et du coup, j'oublie ce qui s'est passé avant. Et comme là, par exemple, les sagas que j'ai données, elles sont toutes déjà terminées. D'ailleurs, en saga, il y a aussi Le Seigneur des Anneaux. Enfin non, j'en ai quand même quelques-unes des grands classiques à lire et qui sont terminées. Donc, je peux me le permettre quand même d'y aller. Eh bien, merci à vous les filles pour votre participation à ce nouvel épisode. Et on se donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode et une prochaine lecture commune.
Oui, merci à toi.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à lui laisser une note sur Spotify ou à le commenter et à le noter sur Apple Podcasts et surtout à le partager autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen pour le podcast de gagner en visibilité. Vous trouverez dans les notes de l'épisode tous les éléments qui le concernent, le livre dont on a parlé, où retrouver mes invités et également les différents comptes réseaux sociaux du podcast. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.